Eh bien bonjour, vous écoutez Aime l'été, votre nouveau magazine estival. Et oui, jour 1 de cette belle aventure. Alors bon lundi à vous tous, je m'appelle Chantal Lavoie. J'aurai l'immense privilège de passer tous les midis de l'été avec vous. Aime l'été, vous savez, ce sera une heure de pur bonheur à rencontrer différents invités qui vont nous parler de sujets variés, qui vont ensoleiller, fleurir, nourrir, pimenter et rythmer nos journées. Voici votre nouveau magazine estival Aime l'été. Et j'aurai aussi le plaisir d'avoir des collaborateurs curieux et passionnés. Alors, je suis persuadée que nous allons passer un été formidable. En tout cas, un été fort agréable, ça c'est sûr. Aime l'été sur les ondes de Canal M, Vue et Voix. Aujourd'hui, 27 juin, au menu de cette première émission, Bonbon Vaudou, ce duo de chanteurs réunionnais qui seront en spectacle au Grand Théâtre de Québec ce soir. On va s'amuser en tyrolienne dans le Vieux-Port de Montréal. On vous présente aussi l'artiste en art visuel Cédric Taillon et nous vous parlerons dans les prochaines minutes de Montréal en art.
C'est le temps des vacances, nous avons gradué. C'est le temps des vacances, la saison pour s'aimer. Mon cœur ne battra que pour toi. C'est le temps des vacances, la saison d'aimer. C'est le temps des romances, comme l'été dernier. Reprenons très vite ensemble, redonne-moi tout. Je t'aime, je t'aimerai pour toujours. Ram, dam, dam, what I do. C'est le temps des vacances. Ram, dam, dam, what I do. C'est le temps des vacances. Ram, dam, dam, what I do. C'est le temps des vacances. Ram, dam, dam, what I do. C'est le temps des vacances.
Et c'était Raffi qui chantait, Raffi de son vrai nom, Caroline Leblanc, groupe composé de Marc-André Binette, Martin Gauthier et François Mathieu. C'est le temps des vacances, oui, reprise du succès de Pierre Lalonde qui remonte à 1963, une chanson devenue l'hymne estival de cette époque. Alors oui, ils seront en spectacle à Granby ce vendredi 1er juillet, le 16 à Mont-Laurier et un peu partout au Québec au cours de l'été. Alors c'était Raffi. Et la saison des festivals est amorcée depuis quelques semaines déjà. On en a eu quelques-uns, le Festival Transamérique, des festivals de musique, les Franco, les Francofolies, bien sûr, le Festival de jazz aussi qui s'amorce cette semaine. Et là, ça continue avec un festival d'art visuel, le Festival Montréal en art, qui est de retour du 29 juin au 3 juillet, 23e édition de ce Festival Montréal en art. Et j'accueille sa présidente, Alison Reynaud. Bonjour!
Bonjour Chantal, merci pour l'introduction et ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Eh bien oui, ben ça me fait plaisir. Et puis le Festival Montréal en art qui est de retour en force avec sa formule habituelle pré-pandémique, hein, parce qu'il faut dire que dans les deux dernières années, on était plutôt en version 2.0. Du moins l'année passée, il y avait une partie en présentiel.
Oui, exactement. Oui, cette année, on est vraiment contents de pouvoir retourner à notre pleine envergure, puis de retourner sur la rue Sainte-Catherine, retrouver le public et tous les artistes. On a hâte de retrouver l'effervescence artistique et toute la créativité dans le village.
Eh ben oui, alors j'allais vous demander quand même, ça s'est passé pas trop mal, l'art au temps de la distanciation?
Ah ben, c'est vrai que c'est une bonne question. On a trouvé des moyens originaux de continuer. On avait créé une galerie en ligne pour que les artistes puissent continuer à exposer et à faire connaître leur art. Donc aujourd'hui, on est content de pouvoir être sur la rue et puis qu'ils puissent parler à leur public en personne. Ça fait quand même la différence.
C'était important quand même de continuer à supporter le travail de ces artistes locaux en art visuel. Et ben, écoutez, on va parler de la mission de ce festival qui fait rayonner la diversité. Parlez-moi-en un peu plus.
Le Festival Montréal en art a été créé vraiment sur cette optique-là de célébrer la diversité et la richesse artistique de Montréal. Donc, il est né avec le village il y a 23 ans maintenant. Donc, on est vraiment sur montrer différentes pratiques artistiques, que ce soit de la peinture, de la photo, mais aussi de la sculpture, ou pourquoi pas de la joaillerie. Puis, on a vraiment une approche, on veut montrer toutes les diversités de genre, de culture, de pratiques. Donc, c'est vraiment un moment convivial pour pouvoir échanger avec des artistes au profil très varié finalement.
C'est ça, il y a quand même à peu près 20% des artistes qui proviennent de la diversité, je crois.
Cette année, c'est 30%.
Ah, quand même.
Oui, depuis plus de 10 ans, Montréal en art met en place des soutiens justement aux artistes émergents et aux artistes issus de la diversité. Pour les artistes qui exposent, mais aussi pour les activités artistiques qu'on propose. On a une quinzaine d'activités directement sur la rue qui sont gratuites et qui ont toujours une thématique particulière pour rassembler le public ou pour faire découvrir une création en particulier.
Et vous êtes très créatif à ce sujet-là, d'ailleurs. Alors, justement, parlez-moi de toutes ces activités. Franchement, il y en a une multitude. On ne pourra peut-être pas tous les couvrir, mais enfin, non seulement il y a des conférences, mais il y a de l'art en direct. Alors, vraiment, et des nouveautés, j'imagine, cette année.
Oui, on a quelques nouveautés. On est très impatients de voir le retour du public là-dessus. Mais en termes d'activité, on a toujours une dimension participative dans ce qu'on essaye d'amener. Donc c'est toujours dans l'espace public, c'est toujours ouvert et gratuit. Et c'est toujours avec des supports ou des manières de faire différentes. Par exemple, on a le projet Ça déménage. Donc le principe, c'est vous amenez vos meubles. Par exemple, si vous avez, une table de nuit chez vous qui a besoin d'être remise au goût du jour. Vous l'amenez au festival et puis l'un des artistes présents crée une œuvre unique sur votre meuble et vous repartez avec.
Et ça se fait en direct?
Et ça se fait en direct et c'est gratuit.
Ah, c'est merveilleux.
Oui, c'est vraiment chouette. On a aussi des murales collectives sur le principe de la peinture à numéros. Donc cette année, c'est l'artiste Dalkachine qui va créer plusieurs murales pour le Festival Montréal en art. Puis le public, les petits comme les grands, peuvent venir prendre leur pinceau puis créer la murale ensemble, toujours en direct également. Donc, on a hâte de voir le résultat.
C'est ça. Donc, c'est vraiment interactif à ce niveau-là et il y a beaucoup d'activités dans ce genre-là, finalement.
Oui, oui. C'est l'objectif, en fait, c'est vraiment de venir démystifier puis de rendre l'art accessible et amusant. Souvent, on le voit comme une pratique réservée à une galerie ou à un musée. Alors, c'est vraiment un moment de partage en famille, entre amis, peu importe, mais on essaye vraiment d'apporter ce côté-là avec Montréal en art.
Et c'est ça, il y a plusieurs autres animations déambulatoires et fixes, en fait. Il y a quelque chose qui attire mon attention, l'art mobile, création d'œuvres grand format devant le public sur support mobile à roulettes.
Oui, les artistes doivent s'adapter quand ils viennent à Montréal en art. On a créé une structure, en fait, qui est effectivement sur roulettes. Et de chaque côté, on a un panneau de chaque côté. Puis on a deux artistes, en fait, qui créent sur ce support à roulettes et qui se déplacent le long de la rue Sainte-Catherine. Ce qui permet en fait d'animer différentes portions de rue, puis aux passants qui sont en train de boire un verre en terrasse, par exemple, ou juste de magasiner, de voir de l'art se réaliser sous leurs yeux, et pourquoi pas même de suivre les artistes pendant qu'ils évoluent sur la rue.
Effectivement. Il y aura des conférences aussi, hein? Alors ça, il y aura des conférences, il y en aura 3 par jour, et on fera des portraits d'artistes également. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est une nouveauté cette année.
Oui, ça fait 2 ans qu'on a cette idée-là en tête. Et on est très contente de pouvoir le lancer cette année. Ce sera la Station des artistes, animée par la drag queen Salma Gad, pour que les artistes puissent prendre 30 minutes pour parler un peu de leur art, de ce qui les anime, pourquoi ils font ça, ce qu'ils cherchent. C'est une bonne manière, en fait, d'en apprendre plus quand, sur une œuvre, parce que des fois, on n'ose pas aller aborder un artiste. Là, ça sera l'occasion vraiment de comprendre un peu plus le parcours artistique et puis ce qui leur plaît, ce qui, leur vision de l'avenir. Donc, on a hâte de voir le public interagir avec les artistes, mais aussi avec notre super drag queen.
Effectivement. Et puis, il y a l'art qui redonne parce qu'il y a aussi des projets aussi qui soutiennent des organismes. Alors, il va y avoir une expo-vente, entre autres.
Oui, l'art qui redonne, ça fait 3-4 ans qu'on a commencé ce projet. On avait vraiment à cœur de remettre une partie des bénéfices de la vente d'œuvres d'art à un organisme partenaire qu'on choisit chaque année. Cette année, ça sera pour l'Association de l'aide aux trans du Québec. Donc, on a deux artistes non-binaires qui seront présents pour réaliser des œuvres sur cette thématique-là. Et on va faire des sérigraphies en édition limitée qui seront, dont les profits iront directement à l'association. C'est vraiment un beau projet. Il y a toujours une belle profondeur parce que l'association, la cause qu'on soutient, est aussi présente sur le site, ce qui permet en même temps à notre public d'en apprendre plus sur la cause mise en avant chaque année.
Effectivement. Est-ce que, juste une petite question comme ça, pour votre festival, est-ce que vous vous êtes inspiré de d'autres festivals du genre à travers le monde?
C'est une bonne question. Je sais qu'il y a une grande foire à Toronto qui est un peu sur le même principe, mais on reste vraiment sur une approche assez exposante seulement. De ce que moi j'ai pu voir, je trouve que Montréal en art a une dimension assez unique parce que ça mêle une plateforme, un peu une vitrine pour les artistes qui souhaitent exposer puis vendre leur art. Et en même temps, il y a un côté qui est très familial et très convivial justement avec ce côté participatif et en pleine rue. Donc je dirais que pour moi, Montréal en art mélange le meilleur de plusieurs mondes.
Oui, c'est ça.
Mais oui.
Alors ouais, c'est intéressant et donc on peut dire que Montréal a vraiment sa spécificité à ce niveau-là.
Oui, il y a vraiment une richesse culturelle à Montréal qui est extraordinaire, mais aussi une manière d'aborder l'espace public, le fait qu'on puisse vraiment prendre d'assaut une rue, puis décider de faire de la peinture en direct. Ou cette année, par exemple, on aura aussi une parade festive avec des performeurs circassiens, on aura des ateliers de djembé avec l'Afro-musée. Je trouve qu'il y a un côté assez unique à Montréal, justement, de pouvoir lier et mixer plusieurs pratiques artistiques différentes et en même temps de rendre ça tellement... Oui, finalement, accessible et puis convivial.
Effectivement. On pourra se faire faire notre portrait aussi. Il y a des artistes qui pourront... En fait, ça, c'est dans le cadre de ce projet « Je t'arrange ton portrait ».
Oui, je vous encourage à aller voir Cédric, Mathieu et Pascal, qui font des très beaux portraits puis qui ont chacun un style artistique différent.
C'est vrai.
Ils ont une bonne ambiance, ils mettent tout de suite à l'aise et puis tous les participants chaque année sont très heureux du résultat.
Alors, c'est une façon, pour tous, de démystifier en même temps l'art, et entre autres, l'art contemporain, de découvrir de nouveaux artistes, de participer aussi. C'est une belle activité, comme vous le disiez, à faire en famille. Alors donc, on rappelle cette parade aussi, ce défilé qui aura lieu rue Sainte-Catherine. Alors, ce sera très festif également. Alors, est-ce que, on peut s'abonner aussi, pas s'abonner à Facebook, c'est-à-dire on peut aller sur votre compte Facebook et Instagram aussi pour avoir d'autres détails là-dessus.
Oui, tous les détails sont sur nos réseaux sociaux et sur notre site web. On peut également voir les artistes qui sont présents pour la vente, donc on a toute la partie galerie virtuelle. Et les informations seront mises à jour progressivement, puis sur Instagram, vous verrez toutes les stories aussi avec les moments forts du festival. Donc oui, on vous encourage à nous suivre.
Oui, puis effectivement, l'expo-vente, enfin, comment ça fonctionne si on veut acheter des œuvres?
Ben, vous avez juste à vous rendre sur site, puis chaque artiste en fait a un kiosque. Mm-hmm. Donc, les kiosques seront sur deux sections de rue cette année, au lieu d'avoir tout le long de la rue Sainte-Catherine. On voulait créer un sentiment de proximité et de convivialité, donc on a rassemblé tous les artistes exposants sur deux sections de rue. Puis les artistes, en fait, vendent en propre. Montréal en art ne prend pas de commission. Donc, je vous invite à aller discuter avec les artistes directement qui seront présents sur site, qui auront différents formats d'œuvres, du plus accessible à des plus grands formats aussi, et puis à voir si vous avez un coup de cœur.
Effectivement. Donc, c'est un lieu accessible, évidemment. On le rappelle, c'est quand même sur la rue Sainte-Catherine.
Oui.
Bon, cette année, c'est en fait, c'est entre, vous m'avez dit Baudry et Papineau, hein, c'est bien ça?
Entre les rues Panay et Papineau.
Ah, OK. Bon, d'accord. Parfait. Alors, on se déplace, c'est ça, dans le village. Et puis ensuite de ça, ben, il y a aussi une autre activité en terminant. Dessine ton quartier.
Oui, ça, c'est effectivement une nouveauté également. C'est avec Urban Sketcher Montreal. En fait, c'est un collectif qui fait des croquis de paysages urbains, qui sera présent pendant le festival et qui invite en fait le festivalier à faire des croquis en fait eux-mêmes du village. Donc, ils seront présents pour donner des conseils et aider les gens à soit s'améliorer, soit débuter le dessin. Et c'est également gratuit, il faut juste venir avec son matériel artistique.
D'accord. Bon. Alors, vraiment, vos objectifs, promouvoir et développer la démocratisation de l'art et ce, en l'amenant gratuitement dans l'espace public, offrir une vitrine d'envergure aux artistes émergents et professionnels, démystifier l'art contemporain et puis en même temps, ça fait connaître aussi, il y a de l'achalandage dans le quartier, c'est important. Alors, en fait, on parle de 160 artistes locaux issus de diverses disciplines. Alors, c'est vraiment très intéressant. Vraiment une galerie à ciel ouvert. Alors, c'est ça.
Oui.
Et quand même, vous accueillez pas mal de visiteurs, là. On peut parler de jusqu'à 200 000 visiteurs.
Oui, c'est effectivement notre objectif. Le fait d'être accolé au centre-ville aussi et au grand festival de musique comme le festival de jazz, ça permet d'avoir un bel achalandage.
Parfait.
Et de donner une belle visibilité à nos artistes.
Alors, le Festival Montréal en art qui est de retour du 29 juin au 3 juillet. Demain, c'est l'ouverture officielle, hein, vers 17h30, je pense, quelque chose comme ça. Alors, 23e édition de ce Festival Montréal en art. Alison Reynaud, présidente de ce festival, merci beaucoup.
Merci à vous, Chantal. Bonne journée.
Bonne journée. And I don't know what you will hear. If you want it, you can have it. Every color that you see, see, see. If you want it bad, and build yourself a technical masterpiece. Luis Del Mar, duo pop expérimental américain de New York, composé du chanteur et guitariste Danny Miller et du batteur et producteur Max Harwood, la pièce Painting. Belle façon, en tout cas, d'introduire notre prochain invité. Reconnu en tant qu'artiste peintre, producteur événementiel, directeur de magazine, portraitiste, je vous présente Cédric Taillon. Bonjour!
Bonjour!
Oh, ben, je voulais vous demander d'entrée de jeu, lequel de ces chapeaux vous définit le mieux, Cédric? Bonne question.
Répète-moi le château. Le chapeau de
producteur. Oh, artiste peintre, ben évidemment, vous l'êtes. Alors, producteur événementiel, directeur de magazine, portraitiste. Alors, lequel de ces chapeaux?
Le magazine s'est terminé depuis 2015, donc ce chapeau-là est maintenant dans mon garde-robe.
D'accord.
Sinon, j'ai jamais arrêté de peindre. C'est un peu ça va toujours être le passager backseat.
Ouais, non, je comprends. Et puis, au cours de votre carrière, là, vous avez vraiment développé aussi un intérêt pour la peinture en direct événementielle, si on peut dire. Qu'est-ce qui vous a mené à pratiquer de l'art en direct?
Ah, moi, c'est que tout seul devant le chevalet, là, c'est nul pour moi. Là. J'ai besoin que quelqu'un d'autre dépende du succès de mon projet. Pas juste moi. C'est juste moi devant le chevalet tout seul dans mon studio. Il n'y a pas grand-chose qui se fait. Par contre, quand j'ai une modèle, quand j'ai un galeriste qui attend mes toiles, quand j'ai une audience, quand je suis en événementiel, je suis devant mon mur en sortant de mon appartement, puis j'ai mon mantra là-dessus. Là. C'est une tune de Bowie interprétée par Nirvana sur l'album Unplugged. C'est okay. « I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect. » Puis ça, là, en live, ben, si les résultats sont pas parfaits dans mon cerveau perfectionniste, ben, ils sont peut-être parfaits pour un membre de l'audience qui me regarde peindre. Fait que c'est toujours ça que je me dis, genre, c'est peut-être pas top-notch de mon œil perfectionniste qui est trop sévère avec moi-même, mais je suis sûr qu'il y a un enfant dans l'audience qui est en train de capoter sa vie en me regardant faire le coup de pinceau, tu sais. Ça me rassure.
Bon, c'est merveilleux.
C'est ce que j'ai besoin, là. Ouais.
Alors, vous êtes à l'aise sous pression, finalement. C'est un peu comme ça que vous fonctionnez dans la vie.
Ah ouais, il faut. Tout le temps, là. Si je peux avoir un gig, deux gigs par jour, même pour le restant de ma vie, là, je suis attendu à des live painting deux fois par jour de 5 heures, là. Je ferais ça 7 jours sur 7 jusqu'à crever.
Donc, c'est vraiment une passion, hein?
Pressure! Yeah!
Et puis, vous faites ça depuis longtemps, quand même?
Ouais, la peinture en direct, je suis tombé dedans comme Obélix un peu, il doit peut-être 15 ans. J'ai commencé tranquille à des événements cocktails un peu, puis après ça, je suis rentré dans les circuits compétitifs à Montréal. Pendant une bonne grosse décennie, là, il y avait beaucoup de peinture en direct. On devait être la capitale mondiale de la peinture en direct ici à Montréal. Il y avait beau dégâts. Qui était 6 teams de peintres de 2 à 5 peintres sur des bouts de mur de 8 pieds par 8 pieds. Le monde votait avec leurs canettes de bière vides dans nos poubelles au foufoune électrique.
Oui, c'est ce que j'allais dire c'est... d'ailleurs, au foufoune électrique. Je me disais, est-ce que, je ne sais pas quel âge vous avez, mais je dis peut-être qu'il est un peu jeune pour ça, parce qu'il me semble que ça fait un certain temps où les foufounes électriques, on faisait de la peinture.
Depuis 1983, c'est en fait mon année de naissance.
Ah, d'accord, c'est ça.
Moi, ouais.
Oui, les foufounes, ça fait longtemps, mais la peinture en direct, au foufoune électrique.
Tous les étés, organisés par Joe Bebel pendant longtemps. Je pense qu'il a passé le bâton maintenant, mais en fait, quand le maire Tremblay a inauguré le quartier des spectacles avec les gros posters, avec pour la première fois le gros point rouge,
d'accord.
Il avait fait des gros posters là, de 6 pieds par 8 pieds qui étaient dans tous les métros, toutes les stations d'autobus, puis il y avait Ken Nagano avec l'Orchestre de Montréal, à côté il y avait Stéphane Rousseau, puis entre les deux, il y avait mouille.
Ah,
parce que pour inaugurer les quartiers des spectacles, ils ont décidé de faire un spotlight sur les foufounes électriques, puis c'était marqué depuis 1983, la peinture en direct aux foufounes électriques. Il y a moi qui peins une toile. Il avait choisi de m'utiliser comme modèle pour le gros poster. Fait que j'en ai volé un, là, puis j'ai donné ça à ma mère. Il y a ça dans la chambre d'invité chez eux, là. Un gros poster de moi qui peins aux foufounes électriques.
Eh oui,
avec mon
pas.
Année de naissance dessus, en plus.
Et Cédric, vous allez réaliser justement des portraits en direct lors du festival Montréal en art, dont on a parlé précédemment. Alors, comment voyez-vous ce rôle de portraitiste de rue, en quelque sorte?
Ben ça, c'est... moi, j'ai commencé en portrait quand je me suis rendu compte là, que j'avais de l'habileté là-dedans. Ça a pris 2 semaines après ma première toile, mon premier portrait, pour que je puisse quitter ma job. Là, j'avais déjà 5 commissions de portrait. Ma grand-mère avait commissionné un portrait de mon grand-père a commissionné un portrait de ma grand-mère. Ma mère a commissionné les 3 enfants. Fait que ça, puis mon 9% m'a permis de 2 semaines après ma première toile, lâcher ma job. fait que je suis toujours en amour avec l'humain. Là, je trouve que c'est le meilleur sujet à interpréter en œuvre. Je préfère à 1000% une personne live devant moi. Tu sais, il y a eu un temps avant la photographie où la seule façon d'avoir une représentation de quelqu'un sur le mur à part avec un miroir, c'était quelqu'un comme moi. Parce qu'on envoyait quelqu'un comme moi peindre la princesse que le prince allait marier de l'autre pays, là, tu sais. Fait que je trouve que ça, là, cet art-là, là, d'être capable d'interpréter quelqu'un qui est là, d'être la seule interprétation où ce que Léo, ça me fait vraiment chier, moi, quand un client compare mon œuvre à la photo qu'il m'a donnée, là, tu sais, genre...
Oui, effectivement.
Est-ce que tous les millimètres sont aux bonnes places? Est-ce que les rides, tu sais, est-ce que tu reconnais ta mère ou non? Tu sais, c'est ça la question, là, tu sais.
Mais, Cédric, vous faites quand même du portrait hyper réaliste aussi.
J'essaie d'arriver le plus réaliste possible, mais avec l'acrylique et les marqueurs, là, ça permet pas d'aller trop, trop loin. De toute façon, on garde tout ça en bas d'une heure. Fait que on y va jusqu'à ce que le modèle soit tanné ou que l'heure soit dépassée. Là. Ça donne ce que ça donne. À date, moi, je suis 100% satisfaction guaranteed, puis j'ai des super belles histoires. Il y a du monde qui viennent chaque année. Il y a un gars, ça fait 3 ans d'affilée qui pense se faire faire son portrait par moi.
Ouais.
On a eu un gars, à un moment donné, qui nous a fracassé le cœur à moi et mon chum Mathieu Belval. Là, il est arrivé, puis... Il nous a conté que lui, il avait eu un accident quand son enfant avait 1 an. Il y avait une tank à gaz qui a explosé. Il a été brûlé à 80% de son corps. Puis il n'y avait pas une seule photo.
Son fils n'avait
pas de photo de son père. Fait qu'il s'est dit, vous, avec les pinceaux, la peinture, on verra pas mes cicatrices.
C'est merveilleux.
On a créé la première représentation qui est allée donner à son fils pour que son fils ait un portrait de son père sur son mur.
Alors, Cédric, on ira découvrir vos talents à Montréal en art à partir du 29 juin. Donc, merci beaucoup de cette belle rencontre.
Chantal, présente-toi, puis t'auras un rappel.
Vous allez m'arranger le portrait, hein, c'est ça?
Ah, that's it.
Parfait, Cédric. Au plaisir.
Merci.
Bye bye.
Bonne
Au revoir.
Vous écoutez Aime l'été.
Of fear is sealing.
C'était la pièce « I Need You » tirée du film « Divergent », film américain dans lequel on retrouve une fameuse scène de tyrolienne dans un monde post-apocalyptique, une sorte de dystopie là, pour adolescents inspirée d'un roman. Le premier film était sorti, je crois, en 2014. En tout cas, il me semble qu'il y en a eu deux autres par la suite. Alors voilà, c'est une belle façon d'introduire mon prochain invité parce que, parlant de tyrolienne, vous savez, comme bien des endroits dans le monde, Montréal a la sienne depuis quelques années déjà. Si vous n'avez pas encore tenté l'expérience, ce serait peut-être le temps d'essayer ça cet été. Et j'accueille le directeur général de Tyrolienne Montréal, ou Montréal Zipline, qui va nous parler de ce parcours de tyrolienne au-dessus de l'île Bon Secours, dans le Vieux-Port de Montréal, avec cette vue spectaculaire. Bonjour, Lucas Martin.
Bonjour Chantal, comment allez-vous?
Ben oui, ça va bien. Alors, vous savez, il s'agit du... il s'agissait du premier circuit urbain de tyrolienne au Canada.
Exact. Déjà 8 ans qu'on est installé à Montréal avec le premier circuit urbain.
Et puis, je pense que ça avait été même la deuxième au monde après celle de Las Vegas. Alors, c'est pas rien.
Exact. On a chacun notre prix. On est un peu plus gros, plus haut qu'eux, et ils sont un peu plus longs que nous. Donc, à chacun notre prix pour nos tyroliennes urbaines.
C'est ça. J'ai l'impression que finalement, cette activité, depuis quelques années, vraiment est en pleine expansion.
En pleine expansion, je crois qu'il y a un énorme intérêt qui est montant. Malheureusement, avec la pandémie, il y a eu un peu un arrêt du tourisme. Donc, c'est sûr que l'expansion, je dirais, a été différente. Il y a un plus grand intérêt chez la clientèle, mais... Dès qu'il y a eu une expansion, je ne suis pas sûr. Avec la pandémie, ça a un peu mis tout ce monde-là à l'arrêt.
Non, je comprends. C'est qu'en fait, on sait qu'il y a plein de tyroliennes un peu partout dans le monde. Les amateurs sont toujours à la recherche de tyroliennes, les plus exceptionnelles, les plus longues, les plus hautes, mais évidemment, qui se trouvent aussi dans des lieux mythiques de la planète. Mais en milieu urbain, quand même, c'était relativement nouveau. C'est ce que je veux dire, ouais.
Absolument, vous avez raison. C'est une expérience complètement différente avec la vue magnifique sur la ville de Montréal. Ça vaut vraiment la peine.
Effectivement. Alors, c'était à la base un projet de Samuel Cadott-Holler, qui est fondateur de l'entreprise et qui a donc qui a réussi ce pari fou d'installer une tyrolienne dans le Vieux-Port de Montréal. C'était quand même un jeune entrepreneur à ce moment-là, lui-même amateur de sport extrême. Alors, très inspirant, hein, finalement, pour de jeunes entrepreneurs. Et puis, c'est ça, est-ce que tout le monde peut faire de la tyrolienne?
Absolument. Notre plus jeune, 3 ans, notre plus âgé, 93. Donc, c'est vraiment accessible à tous, là. Simplement vous présenter avec un grand sourire, ça me fait toujours plaisir d'avoir de la clientèle.
Effectivement, donc ça veut dire que je peux y aller sans problème. Alors, je suis, c'est ça, j'ai l'âge requis. Mais remarquez que j'en ai déjà fait, mais je vais aller essayer certainement celle du Vieux-Montréal. Ouvert à toutes les limites de poids?
De 50 livres à 250 livres, dépendamment des vents et des journées. 50 à 250 peuvent le faire à tous les jours.
Bon, on va à quelle vitesse, dites-moi, puis ça prend combien de temps pour compléter le circuit?
Absolument. Donc, vous pouvez atteindre les 50 km/h en descendant et vous prévoir une vingtaine de minutes du moment de l'arrivée au moment de sortir avec un grand sourire.
OK. Puis la durée comme telle, c'est quoi, 45 secondes?
Environ 30 à 40 secondes dans les airs.
D'accord. Ah bon, puis je vous demandais par rapport au poids, mais si on a un handicap particulier, j'imagine que vous accueillez des gens qui peuvent, par exemple, être en fauteuil roulant aussi. Est-ce que c'est possible? Pas faire la tyrolienne en fauteuil roulant, mais j'entends. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui. La majorité des handicaps ne sont pas un problème. La seule chose qu'on est capable de faire, c'est monter les marches.
C'est
150
évidemment.
Marches pour se rendre au sommet de la tour.
OK. Donc, alors ça peut limiter. Oui.
Mais on a des personnes non-voyantes qui l'ont fait, des personnes avec plusieurs handicaps qui l'ont fait sans problème.
Donc, c'est ça. J'ai vu les commentaires sur votre site. Alors, j'ai lu effectivement de très bons commentaires. Là, évidemment, avec la reprise du tourisme et tout, je lisais à un moment donné, on parlait de files d'attente, c'est-à-dire qu'on se présente là. C'est sûr qu'il peut y avoir, selon l'achalandage, des files d'attente un petit peu plus longues que prévues.
ça peut arriver qu'on ait des files d'attente, mais cette année, on a tout mis en place. On a la plus grosse équipe qu'on ait jamais eue à la Tyrolienne pour s'assurer de pallier toute file d'attente et être sûr que toute notre clientèle ait une super belle expérience et que tout le monde en sorte vraiment heureux. Notre objectif, c'est que tout le monde s'amuse simplement. Donc, on met tout en place pour s'assurer que le parcours soit le plus simple et efficace pour tout le monde.
Ouais. Bon, d'abord, dites-moi aussi, ça a pris quand même quelques années, là, avant, à partir de l'idée jusqu'à sa mise en place, de l'idée à la réalité, si on veut, ça a pris quand même quelques années, mais vous avez quand même, les gens étaient très à l'écoute au départ, hein, pour ce projet.
Absolument, c'est sûr que plusieurs challenges de mise en place de projets sur un site aussi important que le Vieux-Port de Montréal. Mais maintenant qu'on est installé, on est vraiment heureux et on c'est sûr qu'on essaie de développer des nouveaux projets là, pour assurer une continuité dans le tourisme à Montréal.
Ouais, est-ce que on peut vous demander de quel projet s'agit-il? Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-uns?
Malheureusement,
c'est encore secret.
Encore, donc ouais. Désolé.
Je m'essayais, c'est tout. Et puis, en fait, je voulais savoir comment ça s'installe, une tyrolienne, là? Comment on fait ça?
Y a énormément de challenges, premièrement, de calcul, de logistique, c'est énormément d'ingénierie qui est mis à l'arrière. Par la suite, c'est des compagnies expertes en installation de travail en hauteur, en installation de tyroliennes. Et par la suite, c'est des... une fois que c'est mis en place, il faut avoir des inspections tous les jours, beaucoup d'entretien. C'est une grosse opération.
Ben oui, c'est ça. Puis là, évidemment, vous avez construit de toutes pièces. C'est sûr que, j'imagine qu'il y a des endroits en pleine nature. Là, c'est sûr que là, il faut compter avec la géographie des lieux. Mais là, vous avez carrément construit à partir de rien.
Exact. Deux tours supportés. On a coulé des dalles de béton, deux tours autoportantes avec des blocs de béton pour la soutenir. Là. Donc, c'est vraiment une tour d'échafaudage.
Dites donc, je pense que les tyroliennes, habituellement, c'est souvent associé aussi à des parcours d'hébertisme, des jeux aériens. Est-ce que vous avez l'idée est-ce que vous avez d'autres projets justement de cet ordre-là qui pourraient être associés à la tyrolienne?
On a des voisins, on sait au Vieux-Port, qui ont un parcours d'hébertisme complet, ça s'appelle Voile en voile.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui. Nous allons en parler d'ailleurs.
Parcours d'hébertisme. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment complémentaire à nous. On est situé juste un à côté de l'autre, là, donc c'est deux belles entreprises du Vieux-Port là, pour tous les amateurs de hauteur.
Est-ce que ça vous arrive à l'occasion que quelqu'un monte dans la tour et puis finalement se désiste ou enfin a trop peur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit fréquemment?
Je n'irais pas jusqu'à dire fréquemment. Ça arrive. Et c'est sûr que nous, on voit ça un peu comme un échec. On essaye d'apporter tout le monde à braver leur peur et d'avoir du plaisir. Donc, on essaie vraiment de former nos employés le mieux possible. Puis que tous nos employés aient fait la tyrolienne plusieurs fois pour qu'ils soient à l'aise de parler de l'expérience. Et la réalité avec nous, vous êtes attachés avant de tomber dans le vide. Vous glissez à l'intérieur de la tour pendant quelques mètres. Donc, vous vous sentez déjà confortable, bien supporté par le harnais, super à l'aise. C'est vraiment une descente super simple, là, complètement assis. Faites juste lever les jambes et ça commence à glisser.
Ah,
vous êtes encore à l'intérieur de la tour, donc vous n'avez pas à vous lancer dans le vide, vous n'avez pas une grosse sensation de chute immédiate. Là.
Je comprends. Mm-hmm. Et puis, c'est sécuritaire aussi. Ça,
absolument.
C'est sûr. Hein? Ça, il faut rassurer les gens. Ensuite de ça, est-ce qu'on doit s'habiller de façon particulière, idéalement, là?
Le meilleur, c'est comme vous êtes habillé, dès que vous êtes là, simplement, c'est un peu un coup de tête. On est présent sur le site du Vieux-Port. On a 15-20 minutes et on se fait du gros plaisir. Mais c'est sûr qu'on recommande soit des shorts, des pantalons. C'est préférable aux robes, mais même là, c'est pas un problème. Porter une robe, le harnais vient complètement la fermer, donc vraiment, l'habillement
C'est tenue de ville, pas de problème. Autre chose, je voulais vous demander, qu'est-ce que je voulais vous demander, donc, par rapport... en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, ce qui arrive en milieu urbain, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup de points de repère. Et semble-t-il que par rapport à faire ça en pleine nature, c'est que la perception de la hauteur aussi est amplifiée.
Absolument. Donc, je vais parler un peu de l'expérience globale, mais au départ, on a un observatoire à 90 pieds. Donc, ça permet premièrement de prendre des photos avec la ville, de prendre des photos avec les autres attraits du Vieux-Port. On voit tout le Saint-Laurent, on voit le parc Jean-Drapeau au sud, toute la rive sud. On peut voir tout le centre-ville, les magnifiques édifices. Mm. C'est sûr que là, il y a une perception d'auteur qui se met en place.
Effectivement. L'autre chose que je voulais vous demander, c'est en fait, oui, les jours de pluie, c'est ça. Il y a quelque chose, il y a une promotion, je pense, les jours de pluie. Est-ce que j'ai bien lu?
Oui, absolument. Donc, tout ceux qui se présentent en maillot de bain ont un rabais.
Ah bon? Un rabais de combien? De combien de pourcentage?
Vous me posez une bonne question quiz, je crois que c'est 15%.
D'accord. Enfin, je pense que c'est autour de soit 10 ou 15%, mais enfin, à vérifier de toute façon. On peut aller sur votre site Internet là-dessus, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très original, parce qu'effectivement, les jours de pluie, on fait quoi? Ben, c'est ça, on se présente en maillot de bain, alors c'est fantastique.
Absolument.
Bon, ben écoutez, belle initiative. Alors, cette fameuse tyrolienne, alors c'est à essayer absolument dans le Vieux-Port de Montréal. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Vous étiez à bord de votre voiture, là. Vous étiez arrêté parce que vous étiez en route vers nos studios, mais c'est pour ça qu'il y avait peut-être un petit délai. Mais en tout cas, merci bien d'avoir pris ce temps-là.
Merci à vous, Chantal. Bonne fin de journée.
Bonne fin de journée.
Il titube de gris et chancelle, lui fort comme un bœuf, sous comme un homme dangereux. De colère qu'à décolle, il titube de gris et chancelle, lui fort comme un bœuf, sous comme un homme dangereux. De furie, il a commis l'homme, l'acte de peu de fierté, menaçant, violent, celle qui nomme sa moitié. De furie, il a commis l'homme, l'acte de peu de fierté, menaçant, violent, celle qui nomme sa moitié. De colère. Paniqué dans malaxe, ce que j'ai menace, dangereux. Ce qui l'a paniqué dans, paniqué dans malaxe, ce que j'ai menace, dangereux. Puis il fait le coup du remords, culpabilisation max, la relève, un peu l'embrasse, ambigu, tendancieux. Puis il fait le coup du remords, culpabilisation max, la relève, un peu l'embrasse, ambigu, tendancieux. Jaloux, fumasse, faut pas se mentir. Colère, tenace, cogné, blémir. Fragile, ficelle, cassé, désir. Fragile qui, moi, faut pas se mentir. Une lame d'un feu de colère.
Et voilà, c'était Bonbon Vaudou, un duo formé de Oriane Lacaille et Jérém Boukri, qui nous présente une musique du monde à la fois joyeuse et métissée, avec aussi parfois des sujets graves, comme c'était le cas avec cette pièce intitulée « De colère », qui traitait de la violence conjugale. Bonbon Vaudou, un duo tout à fait fascinant, et on va les retrouver à l'instant au téléphone. Et oui, je vous présente Oriane Lacaille et Jérém Boukri. Bonjour!
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, chanteur, auteur, compositeur, multi-instrumentiste. Alors, bienvenue à Aime l'été. Vous deviez être en spectacle jeudi dernier à Montréal, au Jardin Gamelin. Malheureusement, tout a été annulé en raison de la pluie. Et c'est bien dommage parce que j'y suis allée quand même. Et puis voilà.
Oh.
Eh ben oui, et puis vers 19h, remarquez, la pluie avait à peu près cessé, mais évidemment, tout était mouillé, alors c'était un peu tristounet. Mais on pourra, enfin, peut-être pas moi, mais on pourra se reprendre, le public pourra se reprendre ce soir à Québec, au Grand Théâtre. Vous serez au rendez-vous, quelle que soit la météo, de toute façon, vous êtes à l'intérieur, je pense, alors il fera beau en plus, alors bon, tout est beau de ce côté. Durant les prochaines minutes, on va faire connaissance un petit peu plus avec vous. Bon, d'abord, juste préciser, est-ce que c'est votre première visite au Québec?
Non, je pense que c'est notre quatrième tournée ici. Donc, on a une belle.
Vous avez
histoire.
Votre public déjà, oui.
Oui, ça commence en tout cas. Et puis, surtout, on a rencontré les gens qui programment ici, les gens des salles. On a eu la chance de les rencontrer d'abord à Grimbé, et puis
on a le bonheur de travailler avec Guillaume Ruel, un tourneur qui est basé ici.
Voilà, donc
alors ça facilite les choses, bien entendu. Et
voilà,
puis
c'est ça.
Vous savez qu'on est très 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 heureux de, en fait, que vous vous soyez rencontrés un jour. Vous vous êtes rencontrés à l'île de la Réunion, et je pense que c'est en 2014.
Oui.
À peu près, c'est ça?
Oui, à 2013.
À 2013, d'accord, parce que vous étiez dans des groupes différents à ce moment-là. Et puis, par la suite, ben, c'est là que vous vous êtes rencontrés, vous avez eu l'idée de Bonbon Vaudou. Ben, justement, d'où vous est venue l'idée de Bonbon Vaudou? En fait, qui de vous deux a choisi le nom?
Ah, c'est moi. J'ai passé 2 jours à tourner en rond dans mon salon. On avait, je crois d'ailleurs, un nouveau-né en écharpe sur notre ventre. Et il nous fallait trouver un groupe parce qu'on avait décidé que le duo qu'on venait juste de former devait trouver un nom de groupe. Donc j'ai passé bien 2 jours, hein, je crois, à chercher ce nom-là parce qu'un nom de groupe, ça vous suit longtemps quand même.
Ouais. Alors, ben, si justement, qu'est-ce qui vous a inspiré pour le titre? Parce que vous faisiez déjà de la musique, alors vous étiez déjà, vous aviez déjà quand même une bonne partie du premier album, en tout cas, chose certaine, vous aviez déjà travaillé déjà sur des compositions.
Tout à fait, on avait travaillé sur mes compositions et j'avais embauché Oriane Lacaille pour m'accompagner. Et au fur et à mesure du processus, on s'est rendu compte que ça allait devenir un duo et non pas un solo accompagné.
Mm-hmm.
Et la teneur des premiers morceaux, les directions qu'on commençait à prendre, nous amenaient à essayer de trouver une espèce de collision un peu paradoxale entre le côté très sucré de notre musique ou de nos thèmes, et puis les sujets un petit peu plus piquants, la façon d'aller chercher aussi dans la musique traditionnelle de l'île de la Réunion, donc le Maloya.
Mm-hmm.
Et donc, il nous fallait un nom qui exprime cette espèce de collision mystérieuse. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur Bonbon Vaudou.
Oui, c'est ça. Vous évoquez, vous parliez du Maloya, qui est d'ailleurs classé au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO depuis 2009.
Oui, oui.
Oui, alors donc,
c'est
vous...
une musique qui a été interdite, en fait, pendant de nombreuses années et qui a attendu les années 80 pour être officiellement autorisée, puisque c'était une musique des esclaves, en fait, sur l'île de la Réunion.
Mm-hmm.
Et donc je pense que c'était aussi symboliquement important de valoriser cette musique, étant donné qu'elle a une histoire assez compliquée.
Oui, alors, et puis, bon, Boriane, d'abord, vous avez grandi en Haute-Savoie. Vous êtes issue d'une famille de musiciens réunionnais. Alors, vous étiez déjà, vous partagiez la scène déjà avec votre père dès l'âge de 13 ans. Là, votre père, en fait, vous êtes la fille du grand René Lacaille, hein, d'ailleurs, qu'on peut entendre sur votre album dans une pièce intitulée « Rituel ». Votre mère était professeure de lettres classiques. Jérém Bellah, je fais ça vite un peu pour accélérer les choses, mais vos origines sont tunisiennes, hein, je pense.
Tout à fait.
Vos parents étaient tous les deux psychiatres, alors vous avez grandi en France. Ben justement, parlez-nous de ce parcours particulier que vous avez tous les deux, finalement, et comment, à travers vos origines et l'influence de votre famille, vous avez pu vous bâtir comme ça une carrière de musicien.
Alors, pour moi, ça a été vraiment facilité par le fait que mon papa est musicien. Et puis, il nous a enseigné la musique créole depuis tout petit, mon frère et moi. Et on venait, d'ailleurs, nos premières tournées, moi j'avais 13 ans, et c'était au Festival d'été de Québec.
Ah.
Donc, j'en garde des souvenirs vraiment très précieux. On est venu plusieurs années de suite. Je pense mon père a dû venir 10 années de suite, et moi j'en ai fait quelques-unes. je suis venue au moins 6 fois, je pense. Et donc, c'était des moments mémorables. Et voilà, pour moi, j'ai toujours voulu être chanteuse et musicienne. Et puis, ça coulait de source avec mon papa qui m'a mis tout de suite sur scène sans barrière.
C'est ça. Simple. Et vous avez encore une belle collaboration. C'est merveilleux. Et vous, Jérém?
Oui.
Pour moi, si j'ai un héritage, c'est pour ça que je mentionne le fait que mes parents sont psychiatres, déjà pour la blague, parce que ça fait souvent sourire, mais aussi parce que ça a créé un certain rapport au sens des mots et un certain rapport, je dirais, assez poétique, en fait, à la vie et à l'humain. Et je crois que c'est cette poésie qui fonde mon amour pour la musique et pour les mots en musique.
Ouais, parce que tous les deux, vous écrivez, vous composez. Alors, non seulement vous vivez ensemble, mais c'est ça, vous faites plein de choses. Alors, vous jouez toutes sortes d'instruments également. Alors, bon, quelques années après le premier album African Discount, il y a cet album Cimetière Créole qui a vu le jour l'an passé, en 2021. C'est bien ça?
Mm-hmm. Oui.
Et puis, 13 compositions?
12, puisque la 13e, c'est une chanson d'Anne Sylvestre.
C'est vrai, oui.
Et avec Cimetière Créole, on a plongé justement un petit peu plus dans le Maloya, un petit peu plus dans la langue créole aussi, en écrivant dans un aller-retour un peu plus serré entre le français et le créole de l'île de la Réunion. Mm-hmm. On avait ça en tête et on avait aussi l'idée, avec Cimetière Créole, de comme dans la chanson « Danser pour moi » de Claude Nougaro, d'évoquer la mort, mais de façon joyeuse et dansante, puisque le cimetière créole à l'île de la Réunion fait référence à celui de la baie de Saint-Paul, qui est un endroit où il n'y a pas de pierre tombale, mais des carrés de tombes plantées de fleurs multicolores et jaillissantes.
C'est ça. Alors, les gens, finalement, se réunissent et c'est très festif. Bon, on pense à la Toussaint, entre autres. C'est vraiment... ce n'est pas triste en soi, oui, de visiter un cimetière.
Oui, en tout cas, on peut être triste, mais c'est pas... on peut faire plein de choses. On peut faire de la musique aussi. On peut
fêter des anniversaires. Moi, j'ai fêté mon anniversaire... ce week-end au cimetière quasiment marin de Baie-Saint-Paul.
Ouais, bon, c'est merveilleux.
Dans plusieurs pays créoles, on se retrouve justement dans les cimetières aussi pour fêter, pour se retrouver dans la joie.
Merveilleux. On vous entendra ce soir au Grand Théâtre de Québec. Merci bien d'être venu nous en parler de votre travail. Et puis, bon, évidemment, il y a aussi je pense qu'il faudrait aller, on entendait tout à l'heure De Colère, juste voir le clip. C'est vraiment très beau, tout en finesse. Tout est évoqué dans ce clip sur la violence conjugale. C'est vraiment magnifique. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Et puis, moi, j'espère vous voir très bientôt. Vous revoir au Québec.
Merci.
Et nous aussi, merci.
Merci beaucoup.
D'accord, merci beaucoup. Ah bah, c'est déjà tout pour cette première émission Aime l'été. Merci à nos invités, merci à nos recherchistes aussi. Demain, d'autres beaux sujets fort intéressants. Alors, je vous retrouve demain.